Chers amis auditrices et auditeurs, nous nous retrouvons en ce début d'année pour un nouveau rendez-vous avec Mgr Laurent Camiade, évêque de notre diocèse de Cahors. Merci à vous, Mgr, d'être fidèle à ce rendez-vous et avec vous. Nous allons, comme lors de chacune de nos émissions, aborder des questions d'actualité, puis nous reviendrons sur les derniers événements qui marquent notre diocèse. Pour vous recevoir, Mgr, Jean-Claude Bornemer, journaliste et fidèle au poste lui aussi, et votre serviteur Pascal Bahut. Pour débuter cette émission, Jean-Claude, au plan international, quels événements d'église avez-vous retenus ?
Alors, Pascal, 2025, c'est l'année de la mort du pape François et l'élection du pape Léon XIV. Mgr Camiade, que vous inspire ce double événement ?
Moi, ce que je retiens surtout, c'est la manière dont ce conclave s'est déroulé, les échos qu'on en a eus, avec beaucoup d'interrogations avant. On se disait, mais est-ce que ça va être un changement de cap pour l'Église ? Mais comment on va pouvoir trouver quelqu'un qui continue ce qu'a fait le pape François ? Il y a des oppositions, des tensions, tout n'était pas très, très paisible, la mort du pape François. Et puis, le conclave finalement, la conclusion du conclave, on ne sait pas ce qui s'est passé dedans, a apaisé toutes ces craintes. Et voilà, on a un pape qui est à la fois dans la continuité et qui est lui-même, qui révèle peu à peu sa personnalité propre, tout en vraiment en recueillant et en poursuivant l'œuvre de son prédécesseur. Donc voilà ce que j'en retiens un peu. Un des symboles, mais le pape François avait fait un peu la même chose avec l'encyclique sur la foi qui avait été préparée par le pape Benoît XVI et qu'il a lui-même achevé et signé, le pape François, et donc le pape Léon XIV a signé et achevé l'exhortation apostolique d'Ilexité qu'avait commencé à préparer déjà le pape François. Donc, ces documents, disons, transmis d'un pape à l'autre et signés par le successeur, alors que ça a été surtout projeté et travaillé par le prédécesseur, sont bien un signe que dans l'Église, on est au service, on n'est pas là pour défendre ses idées, mais bien pour être au service de l'Esprit-Saint qui inspire les uns et les autres, et chacun ensuite développe avec ses charismes propres ce qu'il a à donner à l'Église.
Alors, si vous voulez bien, nous gardons quelques images dans le rétroviseur, avec en 2025 aussi l'année sainte, l'année jubilaire. Quelles sont les images qui vous reviennent à l'esprit sur la scène nationale et internationale à ce sujet ?
Ah ben le jubilé de l'espérance, pèlerin dans l'espérance, ça a été une petite trouvaille aussi de donner ce thème à l'année jubilaire. Tous les 25 ans, il y a une année jubilaire, une année sainte. Et insister sur l'espérance, je pense que dans les temps que nous vivons, c'est pas rien. Nous avons dans l'année 2025 bien des choses n'ont pas beaucoup changé par rapport à 2024 avec la guerre en Ukraine, à Gaza, toute cette violence qui se manifeste de plus en plus dans les relations sociales comme dans les rapports internationaux. Donc toutes ces réalités-là nous invitent à garder malgré tout l'espérance, à la cultiver, à la puiser dans le Christ qui nous invite aussi à cheminer. Et puis le pape Léon XIV avec son insistance sur la paix, je pense, nous montre un chemin et c'est évidemment, ce sera un long chemin, mais nous allons le suivre. Ce que je retiens aussi, c'est dans les événements, alors c'est peut-être plus français qu'international, mais encore que ça a eu un rayonnement beaucoup plus large. Il y a aussi deux autres jubilés qui se sont croisés avec le jubilé de 2025, qui ont été le jubilé de Paray-le-Monial. On en a parlé plusieurs fois, hein. Et puis le jubilé des 100 ans de la canonisation du curé d'Ars. Voilà, ça, c'était des événements nationaux, voire internationaux, qui ont aussi marqué voilà, cette année, qui était vraiment très très riche en célébrations.
Alors, 2025 a aussi marqué le 60e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Plusieurs textes importants ont été remis à l'honneur cette année, deux en particulier, Le premier revient sur l'héritage vivant de 6 décennies de dialogue avec les autres confessions. Le second retrace la mission des diacres au service d'une Église plus fraternelle. Deux contributions de l'Église de France pour entretenir la mémoire du Concile. Alors, Monseigneur, ce texte est un peu passé inaperçu quand même, et pourtant des retours importants.
Oui, alors sur le diaconat, il y a eu quelques événements, et puis on voit en tout cas que dans certains diocèses, ça a été l'occasion de relancer l'appel au diaconat. Et sur la question du dialogue avec les autres religions, c'est d'actualité de revenir dessus, évidemment. Il y a eu beaucoup d'initiatives et d'expériences de dialogue sur ces 60 décennies. Ce que je perçois, c'est que malgré tout, aujourd'hui, le défi reste entier, c'est-à-dire que, et même peut-être il y a des difficultés nouvelles, c'est-à-dire que le dialogue interreligieux aujourd'hui est pollué par des tensions qui sont Israël-Palestine. Comment parler de l'interreligieux quand il y a une guerre où ceux qui sont, se réclament de la religion juive se battent avec ceux qui se réclament de la religion musulmane? Ça rend beaucoup plus difficile les relations et puis les chrétiens au milieu qui eux aussi parfois sont persécutés. Voilà. Ce qu'on peut dire en positif, c'est que le pape Léon XIV a été bien reçu en Turquie.
Officiellement.
Très officiellement, mais voilà, il y a eu un vrai accueil. Alors, c'était davantage axé sur la dimension œcuménique avec Bartholomée, même si là aussi, l'œcuménisme avec le monde orthodoxe est complexe, parce que tous les orthodoxes n'étaient pas au rendez-vous. Mais ça a été un beau signe, malgré tout. L'œcuménisme entre chrétiens est aussi un encouragement. Donc l'œcuménisme, c'est toujours entre chrétiens, parce que c'est ceux qui croient au Christ et qui veulent ne faire qu'un, suivant le souhait du Christ qui a dit que tous soient un. Évidemment, on n'y arrive pas, mais on y travaille déjà et on a au moins en commun la foi au Christ. Alors que le dialogue avec d'autres religions, comme le judaïsme ou l'islam ou le bouddhisme, c'est autre chose, parce qu'on n'a pas l'ambition d'arriver à la fin à croire la même chose. Mais on a l'ambition de recevoir quelque chose les uns des autres. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, les violences internationales, les guerres, en fait, n'ont pas de motif religieux, mais ils polluent le dialogue interreligieux parce qu'il y a des imbrications avec des différences religieuses, quoi.
Alors, il y avait, pour clore un petit peu sur ce rétroviseur, il y avait donc le rassemblement à Paris organisé par la communauté de Thésée qui réunissait plus de 15 000 jeunes européens. Là aussi, c'est un événement, celui-ci, à caractère œcuménique.
Tout à fait, voilà, parce que Thésée était à l'initiative de communautés protestantes et avec des catholiques et qui, depuis des décennies, là aussi, réunissent des jeunes pour prier ensemble, pour vivre une expérience dans le respect des différences entre les différentes confessions chrétiennes. Mais ce sont des chrétiens qui partagent beaucoup et ce sont de très belles expériences pour des jeunes. Donc là, oui, 15 000 jeunes à Paris. Chaque année, ça a lieu dans une grande ville, le rassemblement de Thésée à la fin de l'année. Et cette année, c'était en France, donc ça nous a concernés. On a aussi quelques jeunes du Lot qui y sont allés.
Nous voulions évoquer avec vous également, Monseigneur, le nombre des vocations des diacres, qui ne semble guère plus important que celui des prêtres. Que vous inspire cette situation et quel enseignement en tirez-vous ?
Oui, alors c'est aussi un sujet qu'on avait déjà un petit peu évoqué lors d'une précédente émission. Ce que j'en tire, c'est peut-être que le Seigneur nous dit... Alors, on a travaillé sur ces questions, hein, je veux dire, c'est pas pour s'en contenter, s'en satisfaire. Il y a sûrement une réflexion à mener au sein de nos communautés. Mais moi, je reçois ce signe que peut-être il faut que nous accueillions aussi un message, c'est que l'Église ne repose pas que sur les ministres ordonnés. Il y a des prêtres et des diacres, ils sont indispensables. Il nous en faut et nous appelons, à ces ministères. Il y a dans le diocèse un séminariste qui se prépare à devenir prêtre. Nous avons deux hommes mariés qui se préparent à devenir diacres. Dans toute la France, il y en a. C'est pas des gros chiffres. Je crois qu'il y a, derrière ça peut-être le signe que le Seigneur nous en donne ce dont nous avons besoin, mais il appelle aussi tous les baptisés faire vivre l'Église tous ensemble. Voilà. Et pas simplement en se reposant, j'allais dire, sur certains qui seraient chargés de faire vivre l'Église et les autres seraient consommateurs. Nous avons tous ensemble à nous retrousser un peu les manches. Voilà.
Autre sujet de fond dont nous avions déjà parler ici, mais qui est porté par l'Église, c'est l'écologie intégrale. Comment l'Église verte avance-t-elle sur la scène nationale et internationale ?
Voilà, alors l'Église verte, je ne sais pas, parce que oui. L'Église verte, c'est un réseau, c'est un projet qui ne fait pas tout de la question écologique, mais peu importe. L'enjeu, en fait, est quand même un enjeu de long terme, dans lequel la réflexion au sein de l'Église et les actions qu'on peut mener visent à un changement de paradigme. Il s'agit de faire que dans la société, dans la culture, le paradigme technocratique qui domine aujourd'hui laisse place à un autre paradigme dans lequel il y ait davantage de respect de la création, de prise de recul et de distance par rapport à nos ambitions économiques et matérialistes, pour ne pas simplement voir la puissance des progrès techniques, mais à partir de nos connaissances d'aujourd'hui, de voir que nous avons à préserver la planète sur laquelle nous vivons et à chercher des équilibres nouveaux. Donc ça, c'est cette réflexion-là, c'est un travail de fond et donc qui avance petit à petit, mais qui peut pas avancer d'un seul coup brutalement, mais qui demande des conversions. Voilà. On n'est pas encore au bout de nos peines.
Dernier coup d'œil dans le rétroviseur 2025, Monseigneur Camiade. L'Église s'est fortement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles avec la mise en place de dispositifs de prévention. Peut-on dire que cette page noire de l'histoire de l'Église de France est tournée ?
Alors, je ne dirais pas que la page est tournée dans le sens, en tout cas pas dans le sens où maintenant ça y est, on a réglé le problème et on passe à autre chose et on ne s'en préoccupe plus. Il y a des pages qui sont tournées dans le sens où effectivement, on n'est plus dans l'Église, on n'est pas dans le déni. On nomme les choses, on travaille dessus. On combat, parce que c'est un vrai combat pour continuer à lutter, à mener un travail de prévention être en alerte, repérer les situations qu'il faut signaler. Sans tomber non plus dans une espèce de chasse aux sorcières aveugle qui verrait le mal partout. Mais il y a un équilibre toujours à rechercher, mais en tout cas, il y a un travail de fond à continuer. Je crois que il y a peut-être une page tournée et où a tourné encore, c'est dans la prise de conscience qu'il s'agit à la base d'un phénomène de société, pas simplement d'un phénomène de l'Église. Il y a eu le rapport de la SIAZ, mais il y a eu aussi le rapport de la CIVISE. Il y a donc un grand travail à réaliser aussi dans la société. On le voit, on parle beaucoup aussi dans l'enseignement catholique, où le travail de prévention aujourd'hui est très avancé, mais où la relecture des événements du passé n'est pas encore complètement assumée, même si ça avance. Mais si on prenait l'enseignement public, l'éducation des jeunes, les familles, les questions d'inceste, etc., dans la société, le déni reste encore très très marqué. Il y a une opacité de ces problèmes-là. On a beaucoup de mal à les affronter ensemble, de façon responsable, même si je ne dis pas que rien n'est fait. Mais le travail que l'Église a fait, je crois qu'il y a aussi, j'ose dire qu'il a une dimension un peu prophétique pour inviter toute la société à prendre conscience qu'il y a un fléau à combattre ensemble.
On va se tourner maintenant sur la vie de notre diocèse, si vous le voulez bien. Ce début d'année 2026, comme tous les débuts d'année, donne l'occasion pas seulement de formuler des vœux, même si c'est important d'en formuler, mais aussi de jeter un œil dans le rétroviseur. Si vous le voulez bien, Monseigneur Camiade, voulez-vous bien nous dire ce que vous retenez de particulièrement marquant à vos yeux des temps forts de 2025 au niveau du diocèse de Cahors ?
Alors, je n'ai pas fait un inventaire de tous les temps forts, mais j'évoquais tout à l'heure le jubilé de Paray-le-Monial et le fait que nous avons pu consacrer le diocèse au Sacré-Cœur. Je crois que ça a vraiment été un temps fort, un rassemblement diocésain qui a marqué tout le monde, que nous avons aussi déjà évoqué sur cette antenne. Voilà, après, dans chaque paroisse, nous avons eu, enfin, ou la plupart des paroisses, pas tout à fait toutes, mais je pense qu'il y a eu 16 lieux jubilaires pendant cette année, et dans chacune chacun de ces lieux jubilaires où il y avait la bannière du jubilé qui avait été remise lors de l'ouverture du jubilé, il y avait un cahier d'espérance dans lequel les gens étaient invités à inscrire, à témoigner des signes d'espérance qu'ils voient autour d'eux. Alors, bien souvent, les gens ont vu un cahier, ils ont écrit ce qu'ils avaient envie d'écrire, et c'est très bien. C'était parfois des intentions de prière, c'était parfois des remerciements, mais déjà un remerciement, ça peut être aussi témoignage d'un signe d'espérance. Et certains avaient bien compris la démarche et ont vraiment dit ce qui les aidait aujourd'hui à espérer. Et lors de la clôture du jubilé, on a invité dans les paroisses à ce que, là où c'est, je ne sais pas exactement ce qui s'est fait dans les différentes paroisses, on l'a fait à la cathédrale, de partager quelques-uns, un florilège de ces quelques signes d'espérance qui a été écrit dans les cahiers. Donc à travers ces petites choses, on voit comment s'incarne l'espérance dans notre vie quotidienne à partir d'expériences concrètes où on se dit « Ah ben oui, ça m'aide à espérer ». Bien sûr, c'est le Christ qui nous fait espérer, mais dans notre expérience de tous les jours, on voit déjà anticiper ce que sera notre espérance, notre joie éternelle à travers les petites joies et les petites choses qui ont dépassé ce que l'on attendait, parce que c'est souvent ça l'espérance.
Donc vous diriez qu'il y a eu une sorte d'enthousiasme autour de cette année jubilaire qui s'est manifestée d'un côté à l'autre.
Alors je ne sais pas si ça a pu être de l'enthousiasme, mais je crois qu'il y a quelque chose plutôt d'une musique douce qui ravive une joie profonde. Je le sens plutôt comme ça.
Alors, pas seulement les gens d'église, comme on dit, mais aussi les observateurs des phénomènes de société ont relevé un certain regain de la foi avec des arrivées en nombre d'hommes et de femmes de tous âges souhaitant se faire baptiser, les catéchumènes. Selon vous, s'agit-il d'un feu de paille ou véritablement d'un printemps de l'Église qui se confirmerait même dans le Lot ?
Alors, je ne dirais pas que c'est un feu de paille, puisque c'est un phénomène quand même qui est en croissance depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, avec des chiffres qui continuent d'augmenter, y compris dans les demandes que nous recevons actuellement. Donc, on peut imaginer que le feu va continuer au-delà de la durée d'un feu de paille. Il y a une flamme, il y a quelque chose. Est-ce que pour autant c'est un printemps de l'Église ? Je ne sais pas, parce qu'il y a toute l'ambiguïté du fait que ce phénomène arrive un peu en faible compensation d'une baisse du nombre de baptêmes d'enfants qui a continué d'augmenter ces dernières décennies. Donc les jeunes n'ayant pas été baptisés petits, quelques-uns d'entre eux, même si, qu'ils soient issus de milieux chrétiens ou pas d'ailleurs, hein, pour le coup, alors que les baptêmes des petits-enfants, c'est toujours dans les familles chrétiennes, demandent le baptême. Et donc on a ce phénomène qui augmente, mais aussi parce que le nombre de non-baptisés a augmenté. Et donc parler de printemps de l'Église à partir de ça, c'est peut-être un optimisme un peu excessif, sauf que la détermination forte qui se manifeste dans le fait, quand on est jeune et jeune adulte, de demander le baptême est assez impressionnante et très belle. Voilà. Et donc c'est ça qui nous fait, nous donne, est aussi un signe d'espérance et que beaucoup d'ailleurs ont souligné.
Parce que même ces derniers jours, dans le Lot, on entendait passer des chiffres qui sont aussi à la hausse pour
oui,
ces
oui,
demandes.
Oui, absolument.
À présent, Monseigneur Camiade, tournons-nous vers l'avenir pour voir ce qui nous attend à travers les événements du calendrier et aussi des projets que vous portez et que vous pouvez évoquer avec nous. Même si, là aussi, ça va être compliqué d'évoquer tout ce qui peut être réalisé pendant l'année.
Oui, alors il y aura tout aussi les activités, j'allais dire, habituelles qui vont se continuer dans l'ensemble. Mais le projet, c'est quand même plutôt une année un peu plus calme. Un des indices, c'est qu'on n'a pas programmé, par exemple, de journée diocésaine. Il y en a eu une très belle l'année dernière. Aussi, on ne va pas forcément vouloir en refaire une avec autant d'importance cette année. Peut-être que l'année suivante, on le fera. En revanche, ce qui me paraît important au cours de cette année, ça va être de travailler davantage sur l'accompagnement des personnes. C'est-à-dire le jubilé, c'est un temps fort. Et la vie chrétienne ne se vit pas que dans les temps forts, mais aussi dans la continuité et dans l'accompagnement des personnes. Je pense aussi que nous avons besoin d'appeler des personnes bénévoles nouvelles. Il y a des missions au niveau diocésain, mais aussi dans les paroisses, mais je pense au niveau diocésain qui aujourd'hui ne sont pas pourvus. On cherche une directrice des pèlerinages, un responsable pour la pastorale de la santé, la pastorale du tourisme, ce qui est pourtant quelque chose qui est important chez nous. Il nous manque aussi un responsable et je pourrais énumérer quelques autres missions importante pour l'Église, où nous avons du mal à repérer, à identifier, à appeler les personnes où les personnes ont du mal parfois à accepter aussi quand on les appelle. Mais en tout cas, je pense que cette année nous donne une occasion, puisqu'il n'y a pas de jubilé, il y a moins de choses. Enfin, je veux dire, il y a quand même un jubilé, mais ça ne va pas nous occuper toute l'année, auquel on va s'associer. Ce sera davantage de faire le point sur la vie du diocèse. Alors, il y a une commission prospective qui travaille et qui veut aider à faire travailler un peu tout le monde là-dessus. Je pense que l'objectif de l'année, ça va être d'être moins dans le faire que dans l'être. Voilà. Donc de travailler aussi sur l'accompagnement, accompagnement des prêtres, accompagnement des... faire des entretiens professionnels avec les salariés du diocèse, mais j'invite aussi à faire des entretiens d'accompagnement comme ça, de relecture avec l'ensemble des personnes qui sont au service de l'Église. Voilà. Alors je disais, il y a un petit jubilé auquel on va s'associer, c'est les 200 ans de la naissance du père Marie-Antoine de Lavaure, qui est qu'on appelle le saint de Toulouse quelquefois, qui était un capucin. Qui est né il y a 200 ans et il a été l'inventeur de la procession au flambeau à Rocamadour. Et ça a été une belle réussite, si bien qu'on l'a appelé à Lourdes pour inventer la procession au flambeau à Lourdes, qui est la fille de la procession au flambeau à Rocamadour. Il ne faut jamais oublier que c'est dans cet ordre-là.
On va le revendiquer.
On va le revendiquer. Mais en tout cas, donc, pour s'associer à ce jubilé, on a invité un capucin à venir prêcher la semaine mariale à Rocamadour autour du 8 septembre. Et on va bénéficier aussi du cordon de Saint-François d'Assise. Mais vous savez que c'est l'année aussi 2026 et 800 ans de la mort de Saint-François d'Assise. Voilà. Ce qui peut nourrir aussi la réflexion sur les relations interreligieuses, mais ça c'est entre parenthèses. En tout cas, autour du 8 septembre, on essaiera de mettre en valeur ce jubilé des 200 ans de la naissance du Père Marie-Antoine.
Comme chaque année, Monseigneur Camiade, nous sommes invités à prier pour l'unité des chrétiens. Unité dont l'importance a encore été récemment rappelée par le pape Léon XIV, afin d'apporter à notre monde actuel le témoignage de notre espérance commune. Cette semaine de prière se déroule du 18 au 25 janvier et une veillée de prière aura lieu le vendredi 23 janvier à 18h à la chapelle de Terre Rouge à Cahors. Est-ce bien suffisant ?
Ça ne sera jamais suffisant, bien entendu, mais c'est mieux que rien. Et je pense que d'ailleurs, j'invite tous ceux qui écoutent Radio Présence, s'ils le peuvent, à participer à cette veillée de prière, parce que on s'y retrouve toujours un bon nombre, peut-être 80 personnes, j'en sais rien, on compte pas chaque année, mais on pourrait être plus nombreux, on pourrait renouveler aussi un peu notre participation à cet événement. C'est déjà mieux que rien, d'autant que on s'y rencontre. Il y a la veillée de prière à 18h, suivi toujours d'un temps convivial après. Et puis, s'il y a ces veillées de prière, c'est parce qu'il y a des groupes œcuméniques qui se réunissent tout au long de l'année, qui réfléchissent ensemble, qui essayent de cheminer ensemble, qu'on s'intéresse les uns aux autres. Voilà.
D'ailleurs, je me permets de vous recommander une lecture dans La vie kersinoise à venir, signée de Jacques Allary, un texte digne d'un théologien. Au programme des prochains jours aussi, une université de la vie sur le thème « Le corps dans tous ses états » organisé les lundis 19 janvier, 26 janvier et 2 février à la salle paroissiale de Pradines, un cycle de formation bioéthique en 3 séances ouvert et accessible à tous. Alors, de quoi s'agit-il et quelles sont les grandes lignes de ces enseignements qui vont être donnés, Monseigneur ?
Oui, ça a été une initiative de Claire Trizis, qui est aumônier de l'hôpital de Cahors, et puis une autre personne, Marie-Catherine Bédouré, peut-être d'autres qui sont impliqués, je ne sais pas, et qui ont invité, je crois, l'association Alliance Vita, qui est vraiment une association qui aide à réfléchir de manière constructive sur la défense de la vie. Je pense qu'aujourd'hui, j'invite en tout cas tous ceux qui le peuvent à participer à ce cycle de formation, parce que notamment comme chrétien, mais pas forcément que les chrétiens, quand on veut défendre une certaine idée de la vie, de la dignité de la personne humaine, du respect de la vie, on se confronte à des arguments qu'on ne sait pas toujours quoi répondre, et même en soi-même on peut être un peu perturbé. Se former un peu dans ce domaine-là, c'est aussi être capable de témoigner, de faire évoluer la société.
Alors, autre temps inscrit au calendrier, les rendez-vous de la pastorale de la santé. Le dimanche 8 février, consacré à la pastorale de la santé et des journées de formation. En quoi consiste la pastorale de la santé, Monseigneur ? Il nous reste très peu de temps.
Oui, alors justement, j'évoquais tout à l'heure le fait que le diacre Serge Clergé, qui est responsable de la pastorale de la santé pour le diocèse, depuis plusieurs années demande à arrêter sa mission, parce qu'il le fait depuis déjà pas mal de temps, et on a beaucoup de mal à trouver un responsable. Alors, mais ça consiste, il y a les aumôneries d'hôpitaux, il y a la présence et l'accompagnement des personnes dans les maisons de retraite, mais aussi le service évangélique des malades. Qu'on appelle service évangélique des malades, c'est l'accompagnement des personnes à domicile par les paroisses qui envoient des... Alors, il y a plein de gens, en fait, qui font des choses, mais pour coordonner au niveau diocésain, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Il y a aussi l'accompagnement des soignants, qui fait partie de la pastorale de la santé. Et puis, des formations comme celle qui vient d'être mentionnée font aussi partie de la préoccupation de la pastorale de la santé, de faire réfléchir sur la vie, sur la fin de vie, sur le début aussi, voilà.
Et quel pourrait être le portrait robot de ce futur responsable de la pastorale de la santé ?
Ah ben c'est, il faut quelqu'un qui soit déjà un peu impliqué dedans et qui soit prêt à s'investir, qui ait un peu de temps et une capacité à coordonner des choses, à faire travailler des gens ensemble, à monter une équipe, voilà.
Alors nous arrivons au terme de cette émission, Emmanuel, notre technicienne, nous fait signe qu'il va falloir s'arrêter, mais juste parce qu'on venait de parler santé. Monseigneur, vous n'avez pas caché vos soucis au niveau de votre propre santé. Comment allez-vous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça va.
Oui.
J'attends. Je suis toujours en soins médicaux, en en oncologie. Et puis, on me dit que peut-être je pourrais bénéficier d'une greffe, mais pour l'instant, ce n'est pas encore certain. Donc, je suis voilà, sur un parcours de santé qui est encore, encore long, sans doute. Disons que globalement, ça va plutôt, c'est plutôt stabilisé, malgré le fait que je suis régulièrement des traitements lourds qui sont fatigants, au moins sur le moment.
Merci, Mgr Laurent Camiade, pour ce temps de rencontre accordé à nos auditrices et auditeurs. Merci pour cette espérance partagée. On vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.
Et vous aussi, merci.
Nous nous retrouvons très prochainement pour vivre ensemble un nouveau moment de dialogue. Imanol, lui aussi, fidèle au poste, était à la technique de notre émission. Merci, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous renouvelons à toutes et à tous nos vœux de belles et heureuses années.